à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Ludovine de la Rochère, bonjour.
Bonjour.
Ludovine de la Rochère, nous sommes là pour un troisième entretien où nous allons parler de la famille, bien sûr, mais en particulier des mères porteuses et des troubles que ça peut engendrer. Je rappelle que vous avez créé en mars 2023 un syndicat qui s'appelle le Syndicat de la Famille, qui agit pour la défense justement d'une certaine vision de ce qu'est la famille de toute éternité, hein, c'est-à-dire un papa, un maman et une maman avec des enfants. Et vous aviez précédemment co-fondé la Manif pour tous, que vous avez dirigée pendant plus de 10 ans, en 2012, et qui a un certain nombre de victoires à son actif. Je rappelle que le Syndicat de la Famille est une association qui vit de dons et qui peut être aidée si on partage les combats que vous menez. Et ces dons sont défiscalisés, donc c'est une association qui est reconnue d'intérêt public. Et se trouve que c'est une très bonne chose. Donc, aujourd'hui, nous avons abordé la question des mères porteuses, parce que l'actualité s'en fait de plus en plus souvent l'écho, et je reprends récemment dans une série télévisée qui s'appelle Emily in Paris, il y a une actrice de 34 ans qui a déclaré il y a quelques semaines qu'elle allait accueillir un enfant. Donc à 34 ans, elle a acheté un enfant. Hein, je crois qu'il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Et donc elle l'a acheté à une mère porteuse. Et évidemment, ce n'est pas légal en France. Il y a eu des projets, hein, c'est ce qu'on appelle la gestion pour autrui, donc la fameuse GPA. Il y a eu des projets de loi qui avaient été déposés. La Manif pour tous, par les actions qu'elle a menées à partir de 2012, a réussi à arrêter ces projets de loi, parce que c'est vrai qu'on peut y voir une sorte d'exploitation de la misère et une forme presque d'esclavage, parce que c'est horrible de se dire qu'on achète un enfant à une personne qui l'a porté et qui est obligée. Moi, ça me rappelle toujours Cosette, hein, dans Les Misérables, oui. Où la maman de Cosette finissait par donner sa fille à des pauvres gens, etc., ou à vendre ses cheveux, à vendre ses dents pour essayer de survivre, d'entretenir sa fille. On est dans la même chose, c'est-à-dire qu'on revient aux Misérables de Victor Hugo. Et du coup, vous, syndicat de la famille, comment vous pouvez nous aider à maintenir une vision humaine où on arrête de faire du commerce avec le ventre des femmes pour lorsqu'on a un désir d'enfant et qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus la possibilité de le porter soi-même?
Alors, il y a un premier élément qui est extrêmement important, c'est d'informer, d'alerter sur effectivement la nature de ce qu'est la gestation pour autrui. C'est un premier point. Qu'est-ce que la gestation pour autrui? Pourquoi est-elle inacceptable? Mais j'allais dire aussi un deuxième point. On me dit souvent, mais la GPA, ça ne concerne que quelques personnes. En vérité, ça nous concerne tous. Pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est une déconsidération de l'être humain. C'est une déconsidération de la maternité et donc de la femme. Et c'est une déconsidération, parce que c'est une réification, enfin une chosification de l'enfant. Autrement dit, l'être humain et la dignité humaine en prend un coup immense dès lors qu'on accepte ou on envisage le principe de la gestation pour autrui. Alors bien sûr, les partisans de la GPA prétendent qu'ils sont opposés à la GPA commerciale et qu'en revanche, on peut, je mets des gros guillemets, encadrer la GPA, et dès lors, elle deviendrait acceptable. En vérité, la gestation pour autrui, vous l'avez très bien dit, c'est une forme d'esclavage. Et ça correspond à la définition juridique de l'esclavage, parce que cette définition, c'est qui vient de de la Convention relative à l'esclavage de 1926. Sa définition, c'est le fait de se comporter en propriétaire provisoirement ou dans la durée, de tout ou partie d'un être humain. Et évidemment, quand on loue une femme, quand on utilise une femme comme un outil pour produire des enfants pour des tiers, eh bien nous sommes donc dans une forme d'esclavage. Or, l'esclavage, on ne l'encadre pas. La traite des Noirs, qui est une autre forme d'esclavage, bien sûr, qui a une longue histoire, malheureusement. À une époque, il y avait eu ce qu'on a appelé le Code Noir, qui était un encadrement de l'esclavage. Et aujourd'hui, qui est dénoncé, bien sûr, ce Code Noir de manière tout à fait massive, on se rend bien compte que c'était inacceptable de dire qu'il y a des esclaves et on met des règles pour encadrer l'esclavage. Évidemment, ça revient à l'accepter. Et donc, pour la gestation pour autrui, c'est la même chose. Dire qu'on va encadrer, c'est scandaleux en soi, et prétendre que la GPA pourrait être éthique, parce qu'on entend régulièrement parler de GPA éthique, c'est un oxymore très très clair et très net. Par définition, la GPA n'est pas éthique, puisqu'elle consiste à louer une femme, pour commencer. Et quand je dis louer une femme, c'est même pas forcément contre paiement. Il y a aussi des femmes qui subissent un chantage amical, un chantage affectif, un chantage social, ou qui sont sous emprise. Donc, j'allais dire, même si c'est pas payant, avec un salaire en tant que tel, ça peut être contre une indemnité, mais même serait-ce sans indemnité, on n'utilise pas une femme pour obtenir d'elle un enfant. Lequel enfant est en l'occurrence commandé, ce qui est scandaleux. Généralement, dans la GPA, l'enfant, on choisit son sexe, on choisit ses caractéristiques, puisque notamment, on choisit celui qui va fournir ses gamètes, donc homme et femme. Le couple commanditaire ou le commanditaire utilise ses propres gamètes et puis après il va chercher des gamètes de l'autre sexe et on va choisir sur catalogue ce qu'on appelle un donneur, mais en fait lui aussi il vend ses gamètes. Bref, donc on a commandé un enfant, on choisit son sexe, on choisit ses caractéristiques et tout le long de la grossesse, il faut savoir que la mère porteuse, elle va subir des injections d'hormones massives quotidienne, parce que comme l'enfant est fait avec les gamètes généralement d'une autre femme, pour des tas de raisons très cyniques, l'enfant n'a aucun lien avec elle, physiquement parlant, génétiquement parlant. Donc la femme, elle est maltraitée pendant tout le long de la grossesse. Ça en fait une grossesse à haut risque, avec ce risque d'accouchement prématuré ou de fausse couche, puis d'accouchement prématuré, et cette prise d'hormones massive, des risques pour la santé de la mère, mais aussi de l'enfant. Et puis finalement, cet enfant, dès l'instant de la naissance, il est séparé de sa mère. Et donc, on est dans une maltraitance de la femme comme de l'enfant, qui est d'une violence absolument incroyable et qui est très lourde de conséquences. Et donc, gratuite ou payante, dans tous les cas, le principe est le même. En fait, contrairement à ce qu'on entend très souvent, il n'y a qu'une seule forme de GPA et la GPA est absolument inacceptable. Et ce que je dis là, à savoir que ça concerne la manière dont on considère l'être humain dans notre société. Deuxièmement, ça concerne, dans tous les cas, cette pratique ne peut pas être éthique et ne peut pas être par essence respectueuse.
Oui, c'est quand même une exploitation, j'y reviens, de la misère, parce que les mères porteuses ne sont pas des bourgeoises qui sont avec des revenus élevés et qui n'ont pas de problème pour se financer. Donc c'est forcément des gens qui voient là un moyen de vivre, de survivre, et donc ils vendent leur corps. Oui. Et je trouve que exploiter ça, c'est absolument contre
l'humanité. Ce sont des femmes qui sont attirées par des offres généreuses sur un plan lucratif, attirées sur les réseaux sociaux, et ce sont des femmes des régions les plus pauvres et qui étaient en guerre avant la guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie dans l'est de l'Ukraine, beaucoup d'Ukrainiennes.
L'Amérique du Sud.
L'Amérique du Sud, ouais. Les femmes américaines les plus pauvres. Mais j'insiste sur le fait que même quand c'est pas payant, c'est choquant, c'est inacceptable, parce que en France, c'est un discours très présent pour justifier la GPA, pour tenter de la faire avancer dans les esprits. Et par exemple, vous avez en France une mère porteuse qui a témoigné sous le prénom de Julie, qui n'est pas son prénom, mais peu importe, et qui a raconté qu'il y a 4 ans, par militantisme progressiste LGBT, elle a voulu aller au bout de ses convictions et donc elle a voulu attendre un bébé pour un couple d'hommes. Mais ce bébé, elle comptait bien le voir de temps en temps, et très naïve, elle n'a passé aucun accord écrit avec ce couple d'hommes. Et puis,
impossible de le voir, évidemment.
Après la naissance de l'enfant, impossible de le voir. Et la justice elle-même, alors qu'elle est bien la mère, parce qu'elle ne l'a jamais abandonnée, elle est la mère à l'état civil, la justice lui fait verser une pension alimentaire, et en même temps, elle n'a un droit de visite pour cet enfant qu'une heure par mois et sous la surveillance de l'aide sociale à l'enfance.
Et pour l'enfant, c'est incompréhensible.
Alors que la GPA est illégale en France, etc., etc. Et donc, dans tous les cas, la GPA, dans le cadre d'une GPA, bien sûr avec le désir d'enfant, et en soi il est très naturel, il est très compréhensif, mais il passe par un procédé qui fait qu'il ne va pas avec la considération et le respect dû à la dignité humaine. Et donc il y a dans tous les cas et systématiquement beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de conséquences. C'est vraiment un processus qu'on ne peut pas accepter, quelle que soit la forme.
Madame de la Rochère, merci pour ce point de vue du syndicat de la famille. Je vous rappelle qu'on peut aider votre syndicat en allant sur le site internet qui vit de dons. C'est un combat qui est loin d'être gagné. C'est un combat qui est en cours, parce que je suis sûr que les projets de loi sont dans les tuyaux et que les mouvements woke et LGBT ne lâcheront pas cette partie-là. Il y a derrière tout ça le désir d'enfant, mais le désir par nécessité est quelque chose qui, lorsqu'il est assouvi, on a envie de passer à autre chose, et le désir n'est pas l'amour. Et c'est ce que je trouve peut-être le plus grave, c'est vis-à-vis de cet enfant. Est-ce que vraiment, lorsqu'on ne l'a pas attendu soi-même, on va être capable de lui donner le même amour que s'il avait été porté par sa propre mère? Permettez-moi d'en douter. Merci beaucoup, madame.
Je vous remercie beaucoup.